Before we get started with today's episode, have you tried Lengua, our new learning platform? Unlike conventional language learning tools, Lengua replicates how we naturally acquire language, not through rigid paths and exercises, but with practice that mimics the real world. It has both free and pro features. You can now practice speaking French whenever you have a spare moment. The AI voices are almost human. You can practice role plays to prepare for real-life challenges like integrating in France or discuss your interests. But that's not all. The free version shows you videos and podcasts recommended by our teachers. As you listen, you can read and interact with transcripts that highlight each word as it's spoken. Instantly translate words, see usage examples, and learn vocabulary fast via an intelligent flashcard system. You can try it out and see pricing via the link in the description. As a podcast listener, you can save 50% on your first month with the discount code FrenchPod50. There's a 30-day guarantee, so you can get a full refund if it's not for you. Oh, in case you wondered how realistic our AI voices are, do you think I'm human?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lengua Talk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais faire la biographie d'une personne que vous ne connaissez probablement pas, et pourtant, vous connaissez tous le produit qu'elle a inventé. Donc oui, c'est une femme dont nous allons parler aujourd'hui, et c'est la femme qui a créé un champagne qui s'appelle Veuve Clicquot. Et je suis persuadée que la majorité d'entre vous connaissent ce champagne. C'est un des champagnes les plus célèbres dans le monde, donc Veuve Clicquot. Et en fait, veuve en français, c'est un mot qui veut dire widow. Donc le nom de ce champagne, ça veut dire Widow Clicquot, Clicquot being the name. Et donc, nous allons découvrir qui est cette femme, qui est cette veuve Clicquot, dont le nom est sur toutes les bouteilles de champagne avec une étiquette jaune très célèbre. Bonne écoute. Nous allons couper cet épisode en trois parties. D'abord, nous allons voir sa biographie, donc comment était sa vie, où est-ce qu'elle est née, ce qu'elle a fait. Dans une deuxième partie, nous allons voir ce qu'elle a vraiment fait pour le champagne, parce que Madame Clicquot était quelqu'un de très créatif et elle a vraiment inventé des choses dans le monde du champagne et du vin. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons ce qu'il reste de son héritage. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce que c'est le champagne Veuve Clicquot et qu'est-ce qu'il reste de cette très grande femme? Donc, commençons avec sa biographie. Donc, cette femme s'appelle Barbe Nicole, c'est son prénom, Barbe Nicole Ponsardin. C'est son nom de famille, et elle est née en 1777, donc 1777, à Reims. Reims, c'est dans la région Champagne, en France, donc plutôt dans le nord de la France. Et elle vient d'une famille riche. Son père était à la tête d'une industrie de textile, donc pour les vêtements, et c'était un homme avec une très grosse usine de textile, il avait 1000 employés et il était également le maire de la ville de Reims. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui était très respecté, qui avait une position dans la société importante. Donc cette jeune femme, Barbe Nicole, est née donc dans une famille très riche, avec une très bonne éducation. Mais je vous ai dit, elle est née en 1777. Si vous connaissez un peu l'histoire française, eh bien, vous savez qu'il y a une date très importante qui arrive bientôt après sa naissance, c'est la Révolution française. La Révolution française, c'est en 1789, donc seulement 12 ans après sa naissance. Et vous imaginez qu'à cette époque, en France, si on était d'une famille riche de la haute bourgeoisie, ce n'était pas du tout un bon moment à vivre. Beaucoup de ces familles ont été tuées ou ont été obligées d'abandonner, de laisser leur château, leur maison, leur fortune et de partir dans d'autres pays. Eh bien, la famille de Barbe Nicole Ponsardin a eu de la chance. Ils ont survécu à la Révolution française parce que son père, en fait, avant, était un monarchiste, donc il soutenait la monarchie, mais au bon moment, juste avant la Révolution, il a changé de couleur politique et il est devenu jacobin. Ça veut dire qu'il a soutenu les principes de la Révolution française, et donc ils ont survécu et ils ont gardé leur château, leur fortune, donc ils ont vraiment eu beaucoup de chance. Quand elle a 21 ans, Barbe Nicole, elle se marie avec un jeune homme qui s'appelle François Clicquot, et c'était en fait son voisin, donc géographiquement, physiquement, c'était la maison à côté, mais une grande maison à côté. Ce qui est intéressant, c'est que le père de François Clicquot était aussi dans l'industrie textile. Donc en fait, il était un concurrent direct du père de Barbe Nicole, et les deux hommes ont décidé de marier leurs enfants pour mettre leurs deux business, leurs deux compagnies en commun et ne pas être en compétition, mais travailler ensemble. C'était donc un mariage arrangé, et à l'époque, c'était très classique dans cette époque et dans cette classe sociale pour garder l'argent au sein des mêmes familles. Et donc, ils se sont mariés quand ils avaient 20 ans, à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que François a décidé de ne pas continuer l'entreprise textile de son père, mais il voulait développer le commerce du vin. Parce que son père, son activité principale, c'était dans les vêtements, dans le textile, mais il avait aussi un petit business, un petit commerce pour vendre du vin. Et ça, c'est ça qui intéressait François. Et donc avec Barbe Nicole, ensemble, ils ont appris les techniques de fabrication du vin. Et ils ont travaillé vraiment dur, mais c'est difficile. C'est un métier qui demande beaucoup de connaissances, et ça ne marchait pas très bien. Donc, ils ont essayé pendant 6 ans après leur mariage, et vraiment, c'était plutôt catastrophique. Et après 6 ans, toute cette petite entreprise du vin allait s'effondrer. Was going to collapse, s'effondrer. Donc voilà pour la première partie de la vie de Barbe Nicole. La deuxième partie commence avec un événement traumatisant et surtout un événement très soudain, very sudden. C'est quand son mari meurt, quand il a 30 ans, avec une maladie. On ne sait pas exactement, mais c'était vraiment très rapide. En 12 jours, son mari est mort. C'était probablement la typhoïde, mais on n'est pas sûr. Donc à cette époque, Barbe Nicole n'avait que 27 ans et elle est devenue veuve. Donc je vous ai dit dans l'introduction, veuve, ça veut dire widow. Et ce qui est fascinant, c'est que Barbe Nicole a décidé de continuer le business du vin, de rester dans la production et la vente de champagne contre l'avis de tous. Tout le monde était opposé à cette idée parce que ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de succès avant avec son mari, donc tout le monde lui disait non, arrête. You know, ce n'est pas une bonne idée. Mais elle a persévéré, elle a continué et elle a été vraiment très courageuse et elle avait du cran. Avoir du cran, ça veut dire to be bold. Elle est allée voir son beau-père, donc son beau-père, ça veut dire father-in-law, donc le père de son mari qui est mort, et elle lui a dit « Je voudrais que vous investissiez de l'argent dans mon entreprise de vin ». Et c'était très courageux de demander ça pour une femme seule avec son propre nom. Et il a accepté. Mais il a accepté à une condition, c'était qu'elle fasse un apprentissage, so an apprenticeship, pour vraiment correctement apprendre les techniques de fabrication du vin. Et elle a fait ça pendant 4 ans. Donc il faut bien voir qu'à cette époque, on est donc au 19e siècle, au début du 19e siècle, c'est vraiment très rare pour une femme de reprendre une affaire, une entreprise, une compagnie. Et la seule façon de pouvoir faire ça, c'était de ne pas se remarier. Parce que les femmes en France, à cette époque, donc c'était à l'époque de Napoléon, eh bien les femmes étaient considérées comme des mineures, donc avaient le même statut légal que des enfants. Elles étaient soit les filles de quelqu'un, so the daughters of, ou elles étaient les femmes de quelqu'un, the wives of. Mais elles ne pouvaient pas être juste des femmes autonomes, indépendantes. La seule possibilité, c'était d'avoir été mariées et après de devenir veuves. Et là, elles avaient un vrai statut toutes seules. Et c'est pour ça que Barbe Nicole a décidé de ne pas se remarier et elle a gardé ce nom de veuve Clicquot. Clicquot, donc c'était le nom de son mari. Mais malheureusement pour la veuve Clicquot, elle a repris ce commerce du vin vraiment à un moment très compliqué. On était en pleine guerre napoléonienne. Si vous connaissez un peu l'histoire européenne, donc en 1805-1810, c'était Napoléon qui était l'empereur en France et qui a mené beaucoup, beaucoup de guerres contre tous les autres pays en Europe, donc contre l'Angleterre, contre la Russie, contre la Prusse, contre l'Espagne. Donc on appelle ça les guerres napoléoniennes. Et c'était un moment très compliqué pour le commerce parce que beaucoup de pays avaient mis en place des blocus. Ça veut dire que c'était impossible de vendre des produits français. Donc vraiment, pauvre Barbe Nicole a commencé son entreprise toute seule à un moment, le pire moment possible, the worst moment possible, le pire moment. Mais elle était très intelligente et très rusée. Elle avait beaucoup de bonnes idées, she was a bit cunning. Et donc, elle mettait ses caisses de champagne sur des bateaux qui n'étaient pas des bateaux français, mais des bateaux hollandais, par exemple, pour contourner, pour ne pas avoir le problème du blocus. Mais quand même, beaucoup de ces caisses, beaucoup de ces cargaisons, shipments, se sont perdues dans la mer. Donc elle était proche de la banqueroute. Son entreprise était vraiment en grande difficulté. Et là où elle a réussi ce qu'on appelle un coup de maître, donc vraiment quelque chose de génial, de très très intelligent, c'est qu'elle a réussi à envoyer des bouteilles de champagne en Russie juste avant que la France perde, donc pour célébrer la victoire de la Russie. Donc elle a envoyé ça, son champagne, en 1814. Et comment elle a réussi à être la première à envoyer du champagne, donc avant tous ses concurrents, c'est parce que elle avait dans plusieurs pays des voyageurs de commerce. Donc ce sont un peu des sales reps, si vous voulez. Donc c'est des représentants, c'était des hommes toujours à l'époque, qui représentaient une marque, ce brand, et qui allaient dans différents pays pour vendre le produit. Et elle avait un homme en particulier qui s'appelle Louis Beaune, qui était en Russie et qui faisait un peu le travail d'un espion, a spy. En fait, il lui donnait des informations sur la guerre, so the war, entre Napoléon et la Russie, et il lui donnait des informations très importantes pour son commerce. Et donc, il lui a dit que la guerre allait bientôt finir avant tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à envoyer du champagne, beaucoup. Elle a envoyé 10 000 bouteilles de champagne au tsar Alexandre Ier pour célébrer la victoire de la Russie. Et grâce à ce coup de maître, ce master strike, eh bien le tsar Alexandre Ier a déclaré, il a dit, que le champagne de la veuve Clicquot sera le seul qu'il boira. Donc c'est devenu un succès incroyable. Tout le monde a parlé de ce champagne, tout le monde voulait acheter ce champagne. Et d'ailleurs, en langue russe, maintenant, pour dire champagne, eh bien, le mot vient de veuve Clicquot. C'est devenu un synonyme pour dire le champagne. Et donc, avec cet immense succès en 1814, c'est bon, son entreprise marche très très bien et son nom devient tellement populaire, tellement célèbre qu'il y a des contrefaçons qui apparaissent, ce counterfeit. Les gens essayent d'imiter, de copier son champagne. Et ça, elle essaye de lutter, de se battre contre ça, she fights against it, avec des attaques en justice. Elle essaye de changer les étiquettes, the labels, chaque année pour que ce soit plus difficile de copier son champagne. Mais c'est un peu la contrepartie de la popularité. Quand on est célèbre, alors les gens essayent de nous copier. Madame Clicquot a vécu jusqu'à 89 ans, donc une longue vie. Elle était très riche et elle a arrêté de travailler en donnant sa position à un autre homme de confiance plus tard dans sa vie. Et à la fin de sa vie, elle avait acheté beaucoup de très bons vignobles. Vignoble, c'est un mot important, c'est là où poussent les vignes, ce vineyards. Et vraiment, toute sa vie, elle a sélectionné, choisi les meilleurs vignobles de la région de Champagne, autour de Reims, de la ville de Reims. Et quand elle avait commencé, donc à 20 ans, elle avait 4 hectares, et à la fin de sa vie, elle avait 40 hectares. Donc ce n'est pas énorme, mais elle avait vraiment sélectionné avec soin tous ses vignobles. Et le surnom qu'on lui a donné pendant sa vie, c'était la Grande Dame de Champagne. Donc si on s'arrête là déjà à sa biographie, déjà on peut dire que c'est une femme assez incroyable, parce que à son époque, en fait, elle est devenue la première femme chef d'entreprise, businesswoman, en France, et c'était pour le commerce international. Donc déjà, elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Elle avait beaucoup de cran. She was very bold. Donc ça, déjà, c'est fantastique. Mais en plus, et on arrive maintenant dans notre deuxième partie, c'était une femme très inventive. Elle avait beaucoup d'inventions et très créative. Je vais vous donner quelques exemples de choses qu'elle a inventées et qui sont toujours utilisées maintenant à notre époque. Elle a inventé ce qu'on appelle la table de remuage. Donc la table, ce table de remuage, ça vient de remuer, to shake, to move something. Alors là, il faut que je vous explique un peu le processus pour faire du champagne. Pour faire du champagne, on a besoin d'un vin, donc d'un vin blanc. Et dans le vin blanc, on ajoute du sucre et de la levure. Levure, c'est yeast. Parce que la levure va manger le sucre, et en mangeant le sucre, ça va fermenter, ça va faire de l'alcool, et ça va faire du gaz carbonique. Ça, c'est les bulles, the bubbles. Donc voilà pour le processus. Mais à la fin, quand la levure a mangé tout le sucre, eh bien, la levure meurt. So the yeast dies because there is nothing left to eat. Et ça, c'était un problème dans le champagne parce que ça change le goût du champagne et surtout, ça rend le vin trouble. So it makes the wine cloudy. Et ce n'est pas esthétique et ce n'est pas agréable. Et il n'y avait pas vraiment de bonne technique à l'époque pour enlever cette levure pour clarifier, to make cleaner and clearer the wine. Et Madame Clicquot, Ponsardin, a inventé donc un objet spécial. Donc il faut imaginer un objet en bois avec des trous, with holes, pour mettre les bouteilles dans les trous. Et les bouteilles étaient avec la tête en bas, so head downwards. Et comme ça, la levure allait se poser, allait tomber dans le bouchon, ce on the cork. Et régulièrement, tous les jours, il fallait tourner les bouteilles, ce to turn them a quarter of a turn, de les tourner d'un quart de tour. Et ça, c'est une invention qui lui a permis de faire du champagne plus vite, de meilleure qualité et en plus grande quantité. Et ça, c'était un secret pendant des années, pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, elle a eu une grande avance sur ses compétiteurs parce que les autres faisaient encore avec une technique archaïque, ancienne, qui leur faisait perdre beaucoup de temps. So she was a step ahead, like really, really ahead compared to her competitors, grâce à cette invention. Une autre chose qu'elle a inventée, c'est le concept du millésime. Le millésime, ça veut dire qu'on utilise pour faire un vin le raisin, so the grapes, seulement de une année, de une récolte, of one harvest. Avant, ce n'était pas comme ça. On pouvait mélanger plusieurs récoltes et donc du raisin de plusieurs années différentes. Eh bien, c'est Madame Clicquot qui a inventé le concept de prendre le vin seulement de l'année 1810, par exemple. Et ça, c'était fantastique après pour le marketing, parce que on pouvait vendre le vin d'une année très spéciale en disant c'était une année fantastique avec telle condition climatique, par exemple. Et la dernière invention qu'elle nous a laissée, c'est le champagne rosé. Elle a mélangé du vin rouge et du vin blanc pour après en faire du champagne. Avant, ça n'existait pas. Donc voilà, Madame Barbe-Nicole Ponsardin était une créatrice, une inventrice assez fantastique. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant de son héritage? Voici notre troisième partie. Eh bien, déjà, regardons, est-ce que son champagne a continué d'être très populaire? Oui, bien sûr. Je vous disais en introduction, vous connaissez probablement le nom Veuve Clicquot parce que c'est le deuxième champagne le plus vendu dans le monde, de la région Champagne. Le premier, c'est Moët. Le deuxième, c'est Veuve Clicquot. Donc, c'est vraiment un champagne extrêmement vendu. Et dans les années 2000, le premier pays d'exportation, ce sont les États-Unis. Donc, c'est aux États-Unis qu'on achète le plus de champagne Veuve Clicquot. Et maintenant, cette marque Veuve Clicquot, c'est la propriété du groupe de luxe français LVMH. LV, c'est pour Louis Vuitton, MH pour Moët Hennessy. C'est un très grand groupe de luxe en France. Louis Vuitton, vous connaissez probablement, c'est une marque de vêtements de luxe. Donc voilà, depuis 1987, ce n'est pas dans la famille de Madame Clicquot. Ça fait partie de ce grand groupe de luxe. Donc voilà pour le côté financier, le côté vente. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la marque Veuve Clicquot a créé en 1982 un prix, ce prize, qui s'appelle Prix Bold Woman Award. Et donc ça, c'est un prix pour les femmes d'affaires, entrepreneuses, qui partagent les mêmes qualités que Madame Clicquot Ponsardin, c'est-à-dire un esprit d'entreprise, donc elles vont créer une entreprise, un esprit créatif et de la détermination. C'est un prix vraiment pour les femmes, pas pour les hommes, des femmes qui sont comme Madame Clicquot et donc qui ont leur propre compagnie, qui sont importantes pour cette compagnie et qui font bouger les choses, qui font changer les choses. Donc avec une idée de améliorer, to improve les pratiques. Pas seulement de continuer ce qui existait déjà, mais vraiment d'avoir un impact positif et de changer les pratiques. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que effectivement, c'était les grandes qualités de la veuve Clicquot et d'avoir créé ce prix, this prize, this award, c'est vraiment une manière de lui rendre honneur, to praise her. Et donc ce prix existe dans 18 pays, il est organisé dans 18 pays et ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux gagnantes à la fin, mais ça leur donne une très grande visibilité. En français, on dit un coup de projecteur. So it's like a spotlight shining on you. Donc un coup de projecteur. Et ça, donc pour les jeunes femmes qui sont donc entrepreneuses ou entrepreneurs avec un E, c'est très intéressant pour se faire connaître dans le monde du business, dans le monde financier par exemple. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. It's now time to do a quick summary in normal pace French. Good luck! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la biographie d'une femme que je trouve très très intéressante et très inspirante. Elle s'appelle Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot. Donc c'est la femme qui a créé, qui a inventé le champagne Veuve Clicquot que vous connaissez tous probablement. Donc cette femme est née en 1777 à Reims, donc plutôt dans le nord de la France, dans la région qu'on appelle Champagne. Et elle est née vraiment dans une famille riche, mais à une période assez particulière, c'était juste avant la Révolution française. Et un peu par miracle, sa famille, qui pourtant était de la haute bourgeoisie, a survécu. Elle s'est mariée ensuite à un homme qui s'appelle François Clicquot, et ils ont décidé ensemble de reprendre la compagnie de vin, le commerce de vin du père de François Clicquot. Ça n'a pas du tout marché. Au début, ils ont appris les techniques, mais c'était vraiment très complexe. Et son mari est mort à l'âge de 30 ans. Elle-même avait seulement 27 ans. Et c'est là où vraiment elle a montré son tempérament et un tempérament très fort et très courageux. Elle a décidé de reprendre l'entreprise de vin à son nom, donc en s'appelant Veuve Clicquot, et en demandant à son beau-père d'investir de l'argent dans sa compagnie. C'était vraiment une période historique très compliquée pour elle de faire ça, puisque c'était les guerres napoléoniennes, donc c'était un peu le pire moment où elle pouvait se lancer dans ce business, mais elle a quand même survécu, et surtout, elle a eu un coup de génie en envoyant à la fin de la guerre, en 1814, 10 000 bouteilles de champagne au tsar Alexandre Ier en Russie pour célébrer la fin de la guerre et surtout célébrer la victoire russe contre Napoléon. Et grâce à ça, elle a réussi en fait à conquérir tout le marché russe et ensuite tout le marché mondial, donc aux États-Unis, en Europe, en France. Et Madame Clicquot était une femme vraiment remarquable parce qu'elle avait l'esprit d'entreprise, mais aussi elle était très créatrice. Donc elle a par exemple inventé une table de remuage, donc pour aider dans la fabrication, le processus de fabrication du champagne, pour aider à clarifier le champagne. Elle a aussi créé le concept de millésime, donc utiliser seulement le raisin d'une récolte d'une année. Elle a aussi inventé le champagne rosé. Et enfin, j'ai terminé en vous disant que l'héritage de cette grande dame passe notamment par le prix qu'on appelle The Bold Woman Award, qui récompense les femmes entrepreneurs, femmes d'affaires, et qui partagent les qualités que Madame Clicquot a montrées à son époque. And now we're back to slow French. Voilà, j'espère que cette biographie vous a intéressé. Personnellement, j'étais assez fascinée par cette femme qui avait vraiment beaucoup de caractère, qui n'avait pas peur de rentrer dans le monde des affaires et dans le monde des hommes, et qui toute sa vie a su avoir un esprit d'entreprise et être très créatrice. Donc cette femme, pour moi, m'a beaucoup inspirée et m'a vraiment fascinée. Je vous souhaite une très bonne journée, merci beaucoup de m'avoir écoutée et à la prochaine. Salut!
Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguaTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguaTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at LanguaTalk.com/FrenchPod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!